Et nous allons accueillir Marie Bourgoin de la Fanzinothèque de Poitiers qui vient présenter cette culture des fanzines à travers quelques exemples.
Alors j'ai intitulé ma communication « Les fanzines, une mémoire à vif du mouvement punk français, archivage et communication du fonds de la Fanzinothèque de Poitiers ». Je vais surtout parler des fanzines punk de Rennes, en fait. Bien. Le fanzine est un témoin essentiel pour la scène punk. Il en restitue finement et fidèlement l'histoire au jour le jour presque. Naissance, croissance et disparition des groupes, nouvelles tendances, préoccupations du moment, polémiques ou grandes causes qui ont agité le milieu. Le fanzine conserve intact la mémoire et la mentalité de l'époque. La Fanzinothèque conserve des fanzines depuis 1989 à Poitiers. La collection est riche aujourd'hui de 55 000 fanzines et ouvrages de micro-édition, presse contestataire et BD underground, depuis le début des années 60 à nos jours, français et étrangers. On reçoit tous les mois une centaine de fanzines. Ce sont pour la majorité des envois spontanés des auteurs qui nous font confiance. Sans eux, pas de Fanzinothèque, qu'ils en soient remerciés ici. La Fanzinothèque est située au Confort Moderne à Poitiers. C'est une grande salle, vous connaissez peut-être. C'est une grande salle de concert avec des expos d'art contemporain aussi, un disquaire, des locaux de répète et une Fanzinothèque. Donc. On est ouvert à tout le monde en journée et aussi les soirs de concert. On a souvent beaucoup de monde le soir, surtout le soir d'ailleurs. Et souvent des groupes aussi qui passent nous rendre visite avant de jouer. Mais on avait vraiment envie que les gens puissent découvrir l'univers des fanzines à distance et même lire des fanzines directement. C'est pourquoi on a depuis 10 ans un catalogue en ligne sur le site internet. Il contient actuellement 33 923 notices, complètes ou non, et 2163 fanzines numérisées. Ce catalogue est alimenté au rythme de 6-7 fanzines par jour, en privilégiant toujours l'actualité, les fanzines qu'on vient de recevoir. Le fond ancien a été le premier à être numérisé. On a établi un corpus de 1000 fanzines rock, entre 80 et 90 en gros, en majorité punk, puisque c'est ce qu'on a le plus dans la collection à cette époque. Pour les fanzines antérieures à 2007, une bonne partie du fond ancien encore, le référencement n'est pas complet, il reste beaucoup à faire pour présenter correctement les groupes, les auteurs et les thèmes qu'ils contiennent. Bon, je vais quand même essayer de présenter, au moins donner un aperçu de la collection rennaise qu'on a conservée, même si je pense qu'il doit nous manquer des choses. J'ai essayé aussi de rester dans le créneau punk parce que ça fait déjà beaucoup de titres. Donc, à côté des journaux rock locaux plus ou moins pro, comme l'Annexe ou West France, Zigzag ou le Rennais, etc., qui parlent de rock entre autres et de punk parfois, il y a une toute petite presse moins en vue qui parle d'autre chose, de punk, de hardcore, de do-it-yourself. Comme ailleurs, on trouve des fanzines sans lendemain, des fanzines éruptives, fanzines coup de gueule, en particulier contre les trans, des petits formats photocopiés et des éditions plus professionnelles. Alors je ne vais pas passer tout ce qui a été publié sur papier à Rennes, mais simplement indiquer les plus intéressants ou aboutis, en laissant ici de côté certaines petites publications trop éphémères ou sans beaucoup d'intérêt. Ah, je vais parler un petit peu quand même de la scène rock en général sur Rennes, avec ce que j'ai repéré comme courants musicaux. Le plus ancien titre qu'on a conservé à la Fanzinothèque, c'est Actualité du Monde Libre, né un an avant les transmusicales. C'est un fanzine d'expérimentation graphique lié aux musiques industrielles et expérimentales. Fanzine petit format en photocopie qui est passé maître dans l'art du copy art. On l'a vu tout à l'heure. Collage et photomontage inspirés par la musique de Père Ubu, Chris Cutler et Marquis de Sade. La pop new wave domine dans les plus vieux fanzines qu'on a. On n'a pas tout malheureusement à la Fanzinothèque. Ce qu'on n'a pas, est-ce que ça a existé ou est-ce qu'on ne l'a pas, je ne peux pas dire. Donc dans les choses les plus anciennes qu'on a, c'est Kamikaze, que je vous montre ici, entre 82 et 86, et Migraine, qui a fait pas mal de numéros. Et dans notre collection, les premiers punkzines sont plus tardifs. Ce qu'on a commence en 1986, c'est Mort aux Vaches, et surtout en 1990, où il y a plusieurs titres. La plupart des courants musicaux se retrouvent dans les fanzines, mais j'ai retrouvé surtout du hard rock et de la pop noisy. Troubadour, par exemple, on compte plusieurs fanzines de hard rock, metal à Rennes. La scène hard rock va évoluer vers le trash, puis le brutal hardcore, depuis Troubadour en 88-89, et Note en 90, qui deviendra Rock Blast en 92. Et qui va créer un mouvement très puissant avec les groupes Stormcore, le label Assaut, concert Overcome Records, et faire parler d'elle nationalement entre 90 et 2000. Rennes est alors la capitale du hardcore d'après David Mancilla. Le courant pop noise reste très présent sur la durée. On a Leave Me Alone en 92. Sonic aussi entre 93 et 96. Ce sont des énormes fanzines, plus de 200 pages, très bien foutues. Philite aussi en 95, il y a plusieurs numéros. Sans compter des publications plus professionnelles que je n'ai pas montrées ici comme épisode. Si, je crois que j'en ai mis une. Ouais, voilà. Je voulais dire aussi qu'il y avait d'autres musiques que j'ai trouvées dans les fanzines de Rennes. J'ai trouvé La Plume de Morfessa en 97, qui est un fanzine de gothique, gothique macabre. Groovy Eyes aussi et Splash One à la même période, hein, qui sont eux situés dans le garage 60s. Et Tendance Positive aussi en 99, voilà, qui représente le courant roots rock and reggae. On a aussi un zine psycho qui s'appelle Zorch Attack. Mais on a un seul numéro, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Hip-hop et techno aussi ont eu leur fanzine. Il y a plusieurs fanzines. Il y a Matza en 97, Sans Concession, Hip-hop Partners aussi. Et pour la techno expérimentale en 98, on a un titre qui s'appelle Ultimatum. Rennes est aussi très bien représentée par les fanzines de BD. Plusieurs collectifs très actifs ont publié dans les années 90-2000. Il y a le journal de Judith et Marinette, Les Taupes de l'Espace, Le Simo, L'œuf. Ce sont tous des enfants de la librairie BD Alphagraph. Aujourd'hui, il y a l'atelier MacLean qui publie des bouquins en sérigraphie. Maintenant, les fanzines punk. Hein, je les ai donc amenés. Il y en a une bonne partie sur le piano, dehors. Je les ai présentés dans un ordre chronologique avec deux grandes périodes. Les fanzines 100% punk entre 86 et 92. Et les fanzines punk hardcore à partir de 90, voire complètement hardcore un peu plus tard. 1989 est l'année d'explosion des fanzines partout. En un rien de temps, les titres fleurissent, puis disparaissent. L'arrivée du hardcore n'est pas étrangère à ce regain de souffle pour les fanzines. La scène punk a déjà plus de 10 ans et a perdu pas mal de sa fraîcheur. Le hardcore, lui, déboule et personne n'en parle, sauf les fanzines. Donc voilà, en septembre 86, il y a Mort aux Vaches, c'est son Sévigné, qui publie son premier numéro. C'est dans l'esthétique punk, ça se voit, avec des collages, des dessins et des infos. Et dans le numéro 1, les interviews de France Culture et Les Cramés, Vortex, Chromosome 4. Et dans le numéro 2, fin 86, celle de Choléra, 13e section et Ludwig von 88. Donc un peu plus tard, en 88, l'assaut ARP sort une feuille d'info qui s'appelle Quad 9 à l'Ouest. Alors c'est une sorte de fanzine imprimée en bleu et qui apparemment voulait faire la promo des nouveaux groupes punk comme Mixomatose, enfin les groupes dont il parle là-dedans, Wart, France Culture et Les Cramés, Ligne d'Hiver, Prima Linea, Couple de Brunswick. C'est un peu une drôle de tête. Enfin voilà, c'est vraiment l'esthétique de l'époque. Ensuite, ça sera J'accuse qui publie, c'est l'organe du Scalp, et qui publie depuis 88 un bulletin anarcho-punk qui traite plus de politique que de musique, mais qui parle quand même des satellites, de Cochise et de Verdun. Après, le fanzine Hopla publie son premier numéro en mai 90. 8 petites pages sur la vie du rock qui annoncent les concerts, les sorties de disques, les infos rock du coin. À noter ce festival à Rennes, Élysée Rock, en mai, avec Shaking Dolls, Valpurgis Voltar, et Alcool Killers, Parabellum, Les Tux, Fustons, etc. Un événement. Ensuite, Yann Boilev publie en 90 deux numéros de Honoré Patrie, complètement punk, avec des interviews de Décafard, Gono Cox, Nos Sports, Les Wampas, VRP, Les Éjectés, Crules, Les Malfrats, dans le numéro 2. Et dans le numéro 3, interview de SS20, Cochise et Agent 86. Il s'arrête et en 94, il refera un fanzine en anglais qui s'appelle International Strategy Bulletin. Autre chose qui n'a qu'une brève existence, mais c'est pour le clin d'œil. Tire à vue magazine, octobre 91, journal humoristique et de mauvaise foi, comme il le dit lui-même. Tire à boulet rouge sur les trans et l'ATM, qualifié d'hydre magouillot culturo apéro subventionnas, comme on le voit sur le dessin de couverture. Tout le fanzine descend Jean-Louis Brossard et l'ATM, ainsi que Dominique Sonny qui s'en prend aussi plein la tronche, ainsi qu'ils descendent aussi toute la presse rock, Best, Zigzag et le Rennais qui sont à la solde des trans musicales. Le dos du fanzine enfonce le clou, l'affiche est détournée, le gros mange des petits. À partir de 95, le hardcore s'impose en force dans les fanzines. C'est ça. On sent bien la transition des périodes avec le raboteur. Il passe en l'espace de 3 numéros entre 90 et 91 du punk au métal puis au hardcore. Ce sont des gros fanzines de plus de 50 pages à 4, assez lisibles, assez bon. Enfin, par rapport à d'autres, disons, avec des interviews des cadavres, les gnomes, Burning Heads, Autopsie, Godflesh, Carcass, Scraps, Treponempal, et aussi de la BD et du cinéma bis. Du goudron et des plumes au même moment, début 91, 100% punk celui-ci aussi, avec des rubriques assez rigolotes parce que voilà, les infos se nomment renseignements généraux. Les chroniques s'appellent « Des fourmis dans les oreilles ». Bon, ça m'a fait rire. Voilà, au sommaire, on a une interview de The Six, Supreme Anthem, The Dread Milkmen, etc. Le concert des Hardons et des Tugs à Nantes, et puis des illustrations. Et des tas de chroniques, Molodoy, Les Clash, Varum Joe, Nirvana, etc. Et je ferai même remarque que pour le raboteur, le hardcore prend tout naturellement sa place à côté ou dans le prolongement du punk. Donc ce sont les élèves ingénieurs de l'INSA, qui ne font pas que d'inventer des nouveaux systèmes, ils font aussi des fanzines. Rocco et ses frères, t'as beau fanzine punk, hardcore, rock, à la mise en page soignée et avec pas mal de chroniques de disques et des infos et des interviews. Le numéro 5 en mars 99 revient sur les trans musicales de 98 et cause avec Portobello Bone, Chuck Bore, Burning Eggs. Dans le numéro 6, qui est de la fin de 99, et on trouve des interviews de Uncommon Man from Mars, Dominic A, Greedy Guts, Miosek, Seven Eight, Dionysos ou encore Jan Tiersen. Et dans le numéro 7, en novembre 2000, on trouve Shoel, Concoy, Armand Dune, At The Drive-In et Dead Pop Club. Exactement. Je vais passer à quelques newsletters qui sont quand même importantes. Hein. Il y en a au moins deux bonnes que j'ai trouvées. Là, elles ont duré suffisamment de temps pour que j'en parle. Il y a l'écho des Foufleurs, qui est là, et Imodium. Alors, c'est voilà, ce qu'on appelle la newsletter, c'est-à-dire de l'info assez brute et c'est en général assez blindé pour que mettre un maximum d'infos dans un tout petit format, comme ça se voit ici. Voilà. Je vais commencer par, malgré tout, par l'écho des Foufleurs, pour me suivre. Hein. Alors, l'écho des Foufleurs, il y a beaucoup de numéros, on n'en a pas beaucoup. Il a publié entre 96 et 2000. Donc, c'est une newsletter punk rock gratuite, quelques pages seulement. Dedans, on trouve les dates de concert et les infos rock. C'est vraiment le noyau du truc, avec quand même quelques interviews en bonus, comme Out for Blood dans le numéro 8, Utopia dans le numéro 17, et qui date de septembre 98, et un article sur le skiten reggae dans le numéro 23, par exemple. Ensuite, Imodium, qui est aussi une newsletter gratuite, publiée tous les deux mois. Il y a au moins 15 numéros entre 99 et 2002. Écrite entièrement à la main, avec des chouettes dessins, il informe sur tous les concerts punk de l'Ouest et même plus loin. Parle aussi BD Underground, petit format avec des chouettes pliages, qui passe de la Vendée à Nantes puis à Rennes, toujours hyper bien renseigné et facile à glisser dans la poche. Ça reste un modèle du genre pour la présentation et le nombre d'infos dans un si petit espace. En 2001-2004, Street Trash, lui, un fanzine un peu plus politique. D'abord, petite feuille d'info. Voilà, j'ai mis les premières feuilles, là. Le temps de trois numéros de quelques pages, on passe à un gros numéro 4 en février 2004, qui fait 84 pages, dos carré collé, assez classe, hein, une belle couverture, et qui est réalisé avec plein de collaborations. Dedans, on y trouve une interview de Phase Terminale, il y a Forme Létale aussi, Blockheads, des dossiers sur l'Action Directe, l'Anarchie in India. Le dernier fanzine punk hardcore que je vais citer a déjà plus de 10 ans. Dans le numéro 5 de janvier 2004, notre seul numéro, One Step Ahead, qui questionne Anti-Flag et Murphy's Law, qui raconte le concert des Béruriers Noirs au Transmusical de Rennes en 2003, et qui parle de végétarisme, de libération animale, de crasse et l'anarcho-punk. Et ensuite, on passe au 100% hardcore. Hein. Depuis 1995 et même un peu avant, arrive un courant uniquement hardcore, issu de la scène trash, et qui a évolué parallèlement au punk. C'est la scène brutale hardcore représentée par Stormcore, Underground Society à Rennes et les fanzines d'Artside Report en 95 et 96 et Inda True Spirit en 97 principalement. C'est une scène qui va encore se radicaliser avec les fanzines Straight Edge. Donc d'abord en 95, Artside Report, d'Artside Report ensuite. C'est le fanzine hardcore de David Mancilla, guitariste de Stormcore et qu'on a déjà trouvé comme rock critique dans les pages de plusieurs fanzines rennais. Dans le numéro 1 de août 95, on a une interview de 25 to Life, Out for Blood, Crown of Thorn, Madball. Ça, c'est le premier numéro. Un an après, en septembre 96, paraît le numéro 2, titre signé poche. L'année 96, la Hardside Connection a organisé plusieurs gros concerts et on va en trouver le compte-rendu dans ces pages. Je cite les principaux concerts parce qu'ils ont vraiment ils ont fait fort. En janvier 96, concert avec Kickback, 25 to Life, Stormcourse, Next Step Up, Hard Response. En mai, 8 Force, Ride for Life et Rawness. Et en juin, Madball, Ignite, Rikers, Congress, Tom Korn, Backfire, Out for Blood, Ride for Life. Ça explique qu'ils aient pris tant de temps à faire le fanzine puisqu'ils faisaient des concerts pendant ce temps-là. Donc on a un grand compte-rendu de tous ces concerts. Et côté interview, on va trouver, c'est un gros numéro, des interviews donc de Sub-Zero, de Kickback, de Prophecy of Rage, Crutch, et pour la scène locale, Underground Society, Slamface et Ride for Life. En janvier 1997, c'est In That True Spirit qui défend la scène brutale hardcore, avec dans le premier et unique numéro des interviews de Stigmata, Headway, Inhuman, Indecision, Regression, Out for Blood et des concerts à Wall, Underground Society, Headway, Spoonful. Après cette flambée hardcore, ça retombe un peu et on trouve encore une newsletter, Disgrace, voilà, qui a fait un numéro en janvier 2000 avec deux interviews de Children et Archangel. Et en 2001, Il n'y a plus rien, qui a fait un seul numéro avec des interviews de Son Song, Of Zarathustra, Yedge, Burn, Hollywood Burn et l'assaut Cafuel, des articles sur la scène hardcore, le sexisme et plusieurs pages de chroniques et de disques. Et le dernier, celui-ci, rien qu'entraînant, qui chronique des fanzines surtout, et puis une interview de l'infanterie sauvage. Le mouvement Straight Edge, à Rennes, important à Rennes, hein, branche radicale du hardcore, il est bien présent avec trois titres entre 1995 et 1998. D'abord, International Straight Edge Bulletin de Yann Boilev, c'est une newsletter en anglais. Il y a au moins 24 numéros, datés de 1994 à 1998, mais on en a seulement deux. C'est d'abord une petite feuille d'info de deux pages. Il va s'étoffer et intégrer et développer ou intégrer un réseau international de correspondants dans la même mouvance. Assez austère dans la présentation, on peut lire des interviews de mainstream, Bulgarie, des infos de Malaisie, de Panama, Croatie, Philippines, Israël, Italie, Brésil, Turquie, etc. Des dizaines et des dizaines d'infos et de chroniques. Assez indigeste, mais une mine d'infos sur ce microcosme. À la même période, Sanjam est lui aussi rédigé en anglais. Le numéro 4 de juin 96, interview Queerfish, Siren ou Sirène, Undone, Day After Records, Ignite et chronique Peut-être, Bubble McPiff, Extensin, New Day Rising, on voit énormément de groupes, etc. Et dans voilà, ce numéro 5 qui est vachement beau parce que la couverture est sérigraphiée, c'est un joli numéro. Dedans, interview de Unhinged, Saying Red, Cerulean, et un très intéressant article où plein de gens donnent leur définition du punk. Des gens de labels français, étrangers, de labels, de groupes, mais en anglais, bien, hélas. Alors, Anne et Unden, pour finir, voilà, est rédigé par le groupe Sarah en janvier 1997. Le sous-titre est éloquent, Straight Edge, ni alcool, ni drogue, ni compromis. Ça rigole pas. Pas très drôle, les mecs. Enfin, non. Dedans, on trouve des interviews de Sapo, Disruptive Element, Korm, qui est de Rennes, Undone, plus un dossier alcool et société. Et dans le numéro 2, des interviews de Existence, Redshift, Headway, des dossiers sur les écoles d'Iwan, ou l'objection de conscience, la pollution de l'eau en Bretagne, des tribunes et des chroniques. Bien, voilà, on arrive à là. Depuis 2004, peu de fanzines punk dans notre fond. Soit on les a pas, soit ils n'existent pas, je ne sais pas. Il faut attendre 2011 et l'arrivée remarquable de deux nouveaux titres, Making Wave et Punk Culture. Aujourd'hui, ce sont les filles de Making Wave qui prennent la relève. Elles s'intéressent aux girls band et interrogent les liens entre punk et féminisme, punk et féminité. Écrit en anglais, on y trouve des portraits, des interviews de musiciennes, celles de la scène actuelle, plutôt post-rock, et des grandes figures historiques, comme Alice Bag de Violent Girl, Steph Petticoat de Necessary Evil, dans le premier numéro, The Knicks, Pussy Riot, Jane Hudson des Rentals, dans le numéro 2. Et dans le numéro 4, qui est sorti à l'été 2016, donc il n'est quand même pas très ancien, on creuse encore le sujet et elle décide de multiplier les approches, avec par exemple un reportage photo pour la tournée de Rose Mercy, plutôt qu'une simple interview, un portrait de Sue Tissue qui chantait dans les Suburban Lows à Los Angeles en 80. Un hommage à Vice Subversa de Poison Girls et Marlene Mather de Lily Putt, punk anglais des années 90 qui sont morts dans l'année. Des interviews de Lilith, chanteuse du groupe italien Not Moving, entre 80 et 89, etc. C'est très intéressant, je ne pouvais pas tout citer. Hein, mais... Et dernier titre évoqué ici, c'est Punk Culture, hein, qui se situe autant dans le domaine du présent que du passé. Depuis 2014, ils ont parlé de Aggressive Agricultor, X-Syndicate, 20 minutes de Chaos, Raw Power, Planet Trash, Poison Ivy, Bad Brains, Casualty, Zoe Polloy, Les Buzzcocks, Justins, La Souris Déglinguée, Peter and the Test Tube Babies, Charge 69, etc. Sans négliger pour autant les groupes bretons actuels, comme Dizez, Suppose It's War, Les Vieilles Margates, 22 Long Riff, Urban Attack, Dinask, The Argument, Radical Failure, Kings of Nothing, The Communies et Death Squad. Voilà. Merci, je ne suis pas très bonne en anglais. Voilà pour ce tour d'horizon, j'ai fait un peu rapido. Hein. Juste pour conclure, si on peut constater qu'il y a moins de fanzines musicaux sur papier maintenant qu'il y a 20 ans, que la production a glissé vers le graphisme et les arts visuels, ce qui existe maintenant compense largement par la qualité et les réductions déployées. Affranchi de la dictature de l'actualité, qu'on peut aisément maintenant déléguer à Facebook ou Instagram, le fanzine est plus considéré comme un objet conçu pour rester, un objet de valeur, comme c'est le cas des deux derniers titres cités.
Merci Marie. Peut-être quelques questions autour de ce corpus assez riche des fanzines. René, oui, je me doutais, Samuel.
Juste une petite question par rapport à... Il y avait un festival, je ne sais pas s'il était que René, qui s'appelait Scoop en Stock, qui était une rencontre autour du... Oui, mais il y a eu une édition, il y a eu des éditions à Rennes, parce que moi je me souviens y avoir participé, et du coup je ne sais pas si c'était itinérant ou pas, et quel rôle ça pouvait avoir dans la perpétuation de la scène fanzine en fait, ou l'émulation de cette scène.
En tout cas, c'est grâce à ce festival Scoop en Stock que vous avez ensuite à gérer la ville de Poitiers qu'on a eu une fanzinothèque. Il y a une cause directe. Et c'est vrai qu'au début, notre première collection, c'était les journaux lycéens et c'était pas terrible. Mais on les a quand même gardés.
Moi, ce sera juste pour faire un complément d'info sur tout ce qui a été dit, en l'occurrence sur tous les zines punk, anarcho-punk qui ont été cités. Et les personnes qui les faisaient, je les connaissais très bien puisque j'étais dans la même scène. Et j'aimerais simplement ajouter que au-delà de ces zines-là, les personnes étaient très impliquées dans des luttes politiques. En l'occurrence, s'il y a pu y avoir des groupes sur la libération animale à Rennes, les punks étaient très impliqués dès le début sur cette question-là. J'aimerais aussi préciser que par rapport au hardcore, il y avait en effet une présence hardcore très forte à cette époque, mais il y avait aussi des grosses tensions entre punk et hardcore et des dissensions au niveau politique, à savoir que le milieu hardcore qui était que drainait un peu tout ce qui est Stormcore et autres était un milieu très, on va dire, masculin, viril, avec le style de danse qui s'appelait, ils avaient importé ça des États-Unis, qui consistait à parler du kimono dance style, qui était vraiment une démonstration de force pendant les concerts. Et il faut savoir que pendant les concerts, il y avait des interventions de féministes, de pro-féministes, qui critiquaient justement ces mises en avant de la masculinité, de la virilité. Et en l'occurrence, il y a toujours eu dans le mouvement punk une présence de femmes et une présence de féministes qui, moi, personnellement, m'ont en tous les cas beaucoup... bousculé et dans le bon sens, je pense. Et du coup, il y avait, par exemple, les concerts qu'on pouvait organiser dans les squats, il y avait toujours, en début de concert, des distributions de flyers avec des trucs du style Pogo Macho, Pogo Bobo, des trucs... Ah oui, j'aimerais simplement signaler aussi un fanzine qui a été relativement important et qui a, comment dire, inspiré d'autres personnes ensuite à Rennes. C'est le fanzine d'une copine qui s'appelle Coco, enfin qu'on connaît sous le surnom de Coco en tous les cas. Et son fanzine s'appelait Snack Attack. Il y a eu 4 numéros. Et les questions qui étaient abordées à l'intérieur, évidemment, concernaient le punk, mais également toutes les questions d'avortement, sexualité, libération animale. J'ai dit sexualité parce que j'aimerais aussi parler du fait que elle avait un ami à Rennes qui faisait un zine qui s'appelait Easily Grossed Out et qui traitait de tout ce qui est question homosexualité dans le punk, et cette présence-là était affirmée à Rennes aussi.
Bien, merci pour ce complément d'information. On va merci beaucoup.